Sermon XVI, le vrai christianisme prononcé par Stephen Crisp à Gracious Street, le 10 avril 1692. L'institution de la religion chrétienne avait ce but, que la sainteté et la justice soient produites sur la terre, que Dieu par son Fils Jésus-Christ puisse prendre plaisir aux fils et aux filles des hommes, afin qu'ils soient réconciliés avec lui, car ce que la loi ne pouvait accomplir à cause de sa faiblesse, Dieu a eu le dessein de l'accomplir par son Fils, et il lui a donné tout pouvoir au ciel et sur. Voilà la grande bénédiction qui nous est venue, et qui est venue à toute l'humanité, par notre Seigneur et Sauveur béni, Jésus-Christ, qui est venu pour détourner chacun du mal de ses voies. C'est là la voie et la méthode par lesquelles notre Seigneur Jésus a accompli le but de sa venue et la volonté de son Père céleste. Moïse, avec tous ses lavages, offrandes et sacrifices, ne pouvait rendre pure et purifier la conscience, et par toutes ses offrandes et ses sacrifices, il ne pouvait nous réconcilier avec Dieu. Mais Jésus, par l'unique offrande de lui-même, a pour toujours rendu parfaits ceux qui sont sanctifiés, et par une seule offrande, il nous a réconciliés avec le Père, et fait ainsi surgir une génération sainte pour Dieu, par la régénération et la sanctification de l'Esprit. Et puisque le Seigneur a daigné, dans les richesses de sa grâce, ouvrir ce chemin nouveau et vivant pour le retour de l'homme dans l'unité et la communion avec son Créateur, la question, mes amis, que je voudrais vous poser au nom de Dieu est celle-ci. Que chacun de vous considère s'il n'est pas préférable, pour chacun de nous de saisir le salut, de saisir cette bénédiction dont le Seigneur nous a bénis, afin que l'institution principale du christianisme ne soit pas seulement nommée et évoquée, mais qu'elle en vienne à être goûtée et attestée dans chaque. Il existe, chez les gens, une notion générale selon laquelle le ciel est un lieu saint, et que rien d'impur ne peut y entrer pour y demeurer, lorsque le temps de ce monde ne sera plus avec nous. Le temps qui nous a été donné, j'en suis certain, nous a été donné par Dieu comme une occasion de nous adapter, et de nous préparer à sa demeure, astérisque, et chaque jour et chaque heure de ce temps devrait être employé à cette grande œuvre, afin que nous nous rapprochions de plus en plus de cet état et de cette condition qui conviennent et sied à cette sainte demeure où les saints et les anges, à jamais, louent le grand et glorieux Dieu. Je suis persuadé que vous croyez que vous, et nous tous, devons rendre compte à Dieu de tout le temps qu'il nous a accordé, selon que nous l'employons aux fins pour lesquelles il nous l'a donné ou que nous le dépensons pour des choses qui ne nous sont pas profitables. Et à ces considérations, nous avons tous besoin de prendre garde à l'état présent où nous en sommes parvenus et arrivés en ce temps. Quant au temps à venir, nous savons tous que nous n'en avons pas la certitude, et quant au sort futur que nous pouvons espérer atteindre, il n'y en a aucune certitude. Que chacun donc applique son cœur à la recherche de la sagesse et de l'intelligence, et s'adresse à Dieu, afin qu'il nous donne de comprendre notre état, et notre aptitude ou notre inaptitude présente pour le royaume de gloire et de bonheur, et pour cette sainte demeure que nous espérons jouir pour toujours. Rechercher Dieu est l'unique but de la vie. Il Dieu a fait, d'un seul sang, toutes les nations d'hommes pour habiter sur toute la surface de la terre, et il a déterminé les temps qui leur étaient assignés et les limites de leur demeure, afin qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'ils puissent peut-être le trouver en le cherchant à tâtons, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, acte 17-26-28, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en vous tous, F4-6. Seulement tourner mon esprit vers l'intérieur, pour une considération sérieuse de mon état et de ma condition présent, je peux dire si je suis apte ou inapte à m'approcher de la présence de Dieu. Et si je me trouve inapte, je dois recourir à l'action divine de cette grande puissance que Dieu a ordonnée et destinée à cet effet. Je dois venir à lui afin qu'il accomplisse en moi et pour moi toutes mes œuvres, selon le bon plaisir de sa volonté, et cela il ne le fera jamais, sinon en me contrariant dans mes plaies. Et Dieu ne révoquera pas les saintes Écritures, qui nous disent que ceux qui vivent dans le plaisir sont morts tout en vivant, ceux qui se livrent à leur propre affection, à leurs propres délices et à leurs propres caprices ne sont nullement prêts à plaire à Dieu et à le glorifier, ils n'y sont pas disposés. C'est pourquoi ils ne sanctifient jamais et n'amènent personne à un véritable état chrétien, sinon par une croix quotidienne, afin que si je ne suis pas déjà disposé et préparé à faire ce qui plaît à Dieu, je puisse l'être en portant une croix quotidienne. Je n'ai pas besoin de vous dire quelles sont les choses que vous devez faire, ni ce que vous avez fait. Je ne juge personne. Il y en a un qui juge, il vous le dira si vous le lui demandez, quel est votre état et votre condition, il dira à l'ivrogne s'il le lui demande, s'il est apte pour le ciel, et aussi aux personnes orgueilleuses et hautaines, si elles sont aptes pour le ciel. Que ceux qui sont coupables de ces péchés, ou de tout autre, interrogent l'oracle en leur propre sein, ne suis-je pas apte pour le ciel malgré tout cela, il vous dira non, rien d'impur n'y entrera, rien qui souille, rien qui blesse ou opprime, l'orgueilleux, l'irritable, le malveillant, celui qui nuit aux autres, qui fait du tort à son prochain, en est exclu. Et en aucune manière n'y entrera au ciel quoi que ce soit de souillé. Apoc 21-27. Car dehors sont les chiens, et les sorciers astérisques et les impurs, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime la tromperie du mensonge et de la fraude. Apoc 22-15. Nul n'entrera dans la sainte cité de Dieu, sinon ceux qui sont purifiés et nettoyés de toute iniquité. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus, puisque nul autre ne pouvait le faire. Moïse et les prophètes ne le pouvaient pas, c'est pourquoi il a envoyé Jésus pour nous bénir, en détournant chacun de nous de nos iniquités et de nos mauvaises voies. L'un a telle mauvaise voie, l'autre telle autre, pour lui, c'est tout un, son œuvre est de détourner chacun de nous de nos mauvaises voies. Astérisque, les chiens et les sorciers sont les ministres de la chrétienté. Comme des chiens, ils lèchent les plaies de leur assemblée, ils se nourrissent des péchés des gens de leurs assemblées, leur disant qu'ils sont justes, recevant leur gratitude continuelle pour leur donner des assurances de la faveur de Dieu et du ciel à venir, ils sont des fabricants de mensonges et des médecins sans valeur. Comme des sorciers, ils pratiquent une magie au moyen de rites et de cérémonies censées rendre un homme acceptable à Dieu, tandis que cet homme demeure esclave du péché, servant ainsi Satan et non Dieu. Mais pourquoi donc, direz-vous, si peu de personnes, dans toute la chrétienté, sont-elles détournées de leur mauvaise voie, là où l'on croit au Christ, où on le professe, où on le lit et l'entend, et pourtant si peu sont convertis et détournés? Car nous voyons, parmi nous un grand nombre de menteurs, de blasphémateurs, d'ivrognes et d'impurs, là où l'on exalte le Christ à grand renfort, et pourtant les gens ne sont pas détournés du mal de leur voie, assurément, il y a quelque chose qui en est la raison. Je voudrais que vous considériez tout ce qu'elle en est la raison, que ceux qui professent être chrétiens ne sont pas détournés du mal de leur voie, car tout pouvoir au ciel et sur la terre a été remis au Christ, et il est capable de le faire, et il a été envoyé par Dieu précisément pour le faire, mais voici une vérité certaine, cela ne se fait pas, et quelle en est la raison? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Quelle en est la raison? Il a fait paraître sa grâce à tout homme dans le monde, et pourtant ils ne sont pas instruits par elle. Voilà un objet de foi pour tous, et Dieu a offert la foi à tous les hommes depuis qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, et pourtant les hommes ne l'ont pas. Quelle est la raison pour laquelle cette nation, comme les autres, a été embarrassée à ce sujet, à chercher des choses si claires dans l'Écriture, concernant l'amour de Dieu pour l'humanité et concernant Christ Jésus le Sauveur, et qu'il se fait si peu de cette œuvre parmi nous? Certains disent qu'il n'y a jamais un homme au monde qui soit détourné du mal de ses voies, ils vivent dans le péché, et ils sont dans la nécessité fixe d'y demeurer et d'y rester tous les jours de leur vie, malgré toute cette croyance en l'amour de Dieu, en la puissance du Christ, et la profession qu'ils en font. Certains disent qu'il n'y a jamais un chrétien au monde qui puisse vivre un seul jour sans péché, mais qu'il se souillera d'une chose ou d'une autre, que le diable l'emportera sur les hommes, et que le péché se mêlera à nos prières et à nos aumônes, et à tous nos saints devoirs, de sorte qu'il n'y a rien de net, rien de pur que nous puissions offrir à Dieu. D'autres ne sont pas si téméraires dans leur jugement, ni si peu réfléchis, mais ils croient que certains hommes et femmes peuvent parvenir à une puissance et à une capacité de tenir tête à Satan et de résister à ses tentations, et qu'il y en a qui ont été détournés du mal de leur voie, mais eux ne le sont pas, qu'y a-t-il donc? Vous avez passé du temps à cela, quelle est la raison pour laquelle vous n'êtes pas détournés du mal de vos voies? Le diable a dit aux gens autrefois que la raison pour laquelle les hommes vivent dans le péché, c'est parce que Dieu l'a ainsi ordonné. Et cela fermait la bouche de bien des chrétiens simples et au cœur tendre, ils ont crié à Dieu sous le poids de leurs péchés, et ils ne voient aucune délivrance malgré toutes leurs prières et leurs larmes, parce qu'on leur a dit qu'ils ne le pouvaient pas, et que Dieu a ordonné qu'il en soit ainsi, et qu'il leur demande de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et chez certains, l'habitude du péché a ôté la culpabilité du péché, et ils vont à la perdition en toute sécurité. J'espère, mes amis, que Dieu a ouvert vos yeux, et que vous avez de meilleures pensées de Dieu, qu'il ne vous a pas demandé une œuvre et un labeur à accomplir, et que, par sa puissance et son décret éternel, il aurait ordonné que vous ne l'accomplissiez jamais, pour ensuite vous damner après tout. Considérez, il y a des hommes et des femmes en servitude et en captivité, et Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour les racheter de toute iniquité et les détourner de leur mauvaise voie. Nous ne sommes pas détournés, quelle en est la raison? Je vous en prie, dans l'amour de Dieu, soyez sérieux en cette affaire. Sérieux, vous devrez l'être, tôt ou tard, lorsque vous paraîtrez devant le tribunal de Dieu, il faudra donner une raison, sinon vous serez sans voix, trouvez-la donc ici. Quelle est la raison pour laquelle je ne suis pas détourné de mes mauvaises voies, puisque Dieu a envoyé son Fils Jésus pour le faire et lui a donné le pouvoir de le faire, pourquoi alors cela ne se fait-il pas? Certaines personnes, à force d'enquêter et après leurs recherches, ont avancé cette raison, elles ont allégué la grande puissance du diable. Le diable est si fort, et a une telle puissance pour obscurcir leur esprit et enchanter leurs affections, il injecte et fait entrer des choses dans leur esprit avant qu'ils s'en rendent compte. Je le concède et j'en dirai un mot. Je concéderai, autant que l'argument peut le porter, que le diable a une grande puissance et une manière d'injecter des choses dans l'esprit et les affections des gens. Il est l'ennemi de Dieu et le nôtre aussi. Il est aux aguets et fera tout ce qu'il peut contre nous, afin que personne n'arrive au ciel. Si nous y parvenons, ce sera contre son gré. J'ai entendu certains exagérer à tel point la puissance du diable, qu'il aurait un tel pouvoir sur un homme ou une femme qu'il serait capable de les maintenir dans le péché toute leur vie, bien que Dieu ait déployé l'immensité de sa puissance pour leur rédemption. Il est difficile de croire que le diable soit plus fort que Christ Jésus. Or, si grande que soit sa puissance, nous sommes en état de connaître une puissance plus grande. L'apôtre a consolé les chrétiens, malgré toute la puissance que le diable employait pour les souiller et les empêcher d'hériter du royaume de Dieu, 1 Jean 4, 4. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je voudrais que vous le croyiez, moi, je le crois de tout mon cœur. Le diable ne règne que dans les cœurs des enfants de la désobéissance, et celui qui a le Saint-Esprit en lui a en lui un plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous croyez cela, alors la question est jusque-là résolue. Nous avons un Sauveur, un Libérateur, plus capable de nous racheter que le diable ne l'est de nous tenir en servitude. J'espère que nous sommes rassurés maintenant que nous savons que nous avons un gardien. Nous sommes assaillis par les tentations du diable, et elles sont puissantes. À quel point sont-elles puissantes? Il n'a de puissance que dans la mesure où il trouve en nous une inclination à céder et à s'associer à ses tentations. S'il vient avec une tentation vers un homme ou une femme qui n'a aucune inclination pour la chose qu'il leur propose, s'ils la haïssent, alors c'en est fini. La puissance du diable réside en ceci. Lorsqu'il apporte une tentation envers laquelle j'ai une inclination, alors il a une faction en moi. Si celle-ci est arrachée, que signifie sa puissance, quand bien même il apporterait une multitude de tentations? Beaucoup d'entre vous comprennent ce que je dis. Si une tentation vient à un homme de commettre un acte d'impureté, s'il est chaste, il n'a en lui aucune inclination à y céder ou à s'y associer, il la hait, c'est en soi une abomination, et ce serait pénible et provoquant pour Dieu s'il le faisait, l'homme l'abhorre, alors quelle tentation puissante est-ce là? Si elle tombe sur un homme à l'esprit impur, souillé dans son cœur, il a lutté non seulement contre le diable, mais aussi contre sa propre convoitie et son inclination corrompue. Mais si un homme croit au Christ, s'appuie sur lui, il dira « Seigneur, tu vois que je suis sous tentation, voici une tentation grande et puissante, je ne pourrai jamais y résister, mais je me confie en ton nom et en ta puissance. Lève-toi, je t'en prie, et délivre-moi. » Ainsi, lorsque Dieu se lève, ses ennemis sont dispersés, bien que la puissance du diable soit grande, il y a pourtant un libérateur plus fort que lui. La raison pour laquelle les hommes sont vaincus ne réside pas dans la grandeur de la puissance du diable, mais dans la fragilité de notre nature. Certains diront que nos natures sont si fragiles, faibles et dépravées, que nous ne pouvons rien faire comme nous le devrions. On donne cela comme une autre raison, et il y a une part de vérité, mais cette vérité n'est qu'une illusion. Ils voudraient s'excuser lorsqu'ils ont cédé à une tentation. Je suis faible et fragile, je ne peux résister au diable. Bien que le diable ne soit pas plus fort que le Christ, il est plus fort que moi. Il agit de toute sa force, puissance et subtilité pour me tromper, me prendre au piège et me vaincre. Je suis une pauvre créature fragile, donc je dois lui céder. C'est une raison charnelle, comme si je devais lutter contre le diable par mes propres forces et délivrer mon âme, comme si Dieu m'avait abandonné à moi-même. Si vous dites « Seigneur, tu m'as mis aux prises avec le diable pour résister à ses tentations, Seigneur, je ne peux pas le faire par moi-même. » Dieu vous répondra « J'ai mis du secours sur celui qui est puissant, qui est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à moi par lui, et ainsi, vous n'avez pas à vaincre le diable par votre propre puissance et capacité. » Si quelqu'un raisonne ainsi, son raisonnement n'est pas conforme à la réalité, car nous sommes sauvés par le Christ. Je ne peux donc pas invoquer ma propre fragilité, puisque Dieu a pourvu à un rocher pour ma défense, plus fort et plus élevé que moi, en qui je peux me confier et sur qui je peux m'appuyer. Ainsi, vous voyez que la fragilité de notre nature n'est pas une raison suffisante, il faut chercher plus loin, et quand nous en venons à examiner étroitement, et jusqu'au fond de nos cœurs, je vais vous dire où cela se situe. Cela repose, son centre est dans la perversité de la volonté qui est en l'homme, contraire à la volonté de Dieu, c'est l'opposition de notre volonté à la volonté de Dieu. Nous pouvons parler tant que nous voulons de salut et de christianisme, dire que nous avons l'intention d'être sauvés, d'aller à Dieu quand nous mourrons, et de jouir du bonheur du ciel pour l'éternité. Nous pouvons parler ainsi, mais tant que la perversité de la volonté demeure, je suis la cause de ma propre ruine. Si je grandis dans une profession, cette volonté perverse grandira avec moi sous cette profession, et sous n'importe quelle profession. Changez votre jugement et votre opinion aussi souvent que vous le souhaitez, elle vous suivra, la raison et le fond des choses en viendront à ceci. Nul ne peut vaincre le diable ni être disciple du Christ sans une croix quotidienne. Quand les gens en viennent à voir la nécessité de prendre la croix du Christ et de se renier eux-mêmes, quand on en arrive là, les hommes déploient tant d'expédients, d'évasion et d'artifices pour se couvrir, pour se faire croire à eux-mêmes et autres qu'une telle ou telle chose est compatible avec la volonté de Dieu et qu'ils peuvent la faire et sauver leur propre âme. Mais ils se vantent de leur propre tromperie et se réjouissent de pouvoir feindre afin de tromper leur propre âme. de sorte qu'il n'y a aucun espoir qu'il soit jamais purgé et nettoyé. Mais lorsqu'un homme devient sensible à son état spirituel, et qu'il est sincère et honnête, il sera prêt à dire à Dieu, « Si je suis trompé en quoi que ce soit, ouvre-moi les yeux, Seigneur, si je me permets quoi que ce soit qui soit contraire à ta sainte volonté, Seigneur, je t'en prie, montre-le-moi. » Un tel homme mettra de côté sa propre volonté si elle est contraire à la volonté de Dieu. Voilà donc quelqu'un qui est un objet très propre pour que le Christ agisse en lui, il ne tardera pas à être convaincu qu'une délivrance vient. Quand un homme vient à la parole, il est convaincu d'un mal dans sa conscience dont personne, sinon Dieu et lui, n'avait connaissance ou n'était au courant. On découvre qu'il vit dans une pratique contraire à la pensée de Dieu. Dieu vous a convaincu que vous l'aimez et que vous y vivez, et si vous rompez seulement avec cette mauvaise pratique, c'est qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour vous détourner de toute mauvaise voie et vous racheter de toute iniquité. Cette vérité a une saveur, et si vous êtes sincère et droit, vous n'avez rien à dire ni à faire, sinon à vous dresser contre tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu, et vous recevrez une lumière du ciel envoyée pour vous guider et vous diriger dans votre chemin. Si vous recevez seulement cette grâce qui vous est librement donnée de Dieu par Jésus-Christ, il vous purifiera et vous nettoiera certainement de votre péché, et vous détournera de toute mauvaise voie, malgré la perversité de votre propre volonté et la puissance de Satan, et il œuvre. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous ne pouvons plaire à Dieu sans la foi, ni même avec la foi, à moins que cette foi ne soit produite par Dieu et ne nous soit donnée comme le don de Dieu. Il y a beaucoup de foi dites-elles dans cette nation et dans cette ville, mais croyez-vous que toutes leurs voix plaisent à Dieu? Il nous faut ici distinguer différentes sortes de foi. Lorsque l'apôtre veut donner une description de la foi salvatrice, il vous dit que c'est l'opération de Dieu. Si je n'ai pas cette opération, et que je n'y prête pas attention, comment pourrais-je la voir à l'œuvre? Mais puisque c'est la dispensation de l'Évangile du Christ, et le dessein du Christ, de tourner les gens vers l'opération de Dieu dans leur propre cœur, nous voulons qu'ils y croient. S'il y a un ivrogne ou une personne profane, si Dieu opère la foi dans le cœur de cette personne, elle sera convaincue et dira « Quel coup le Seigneur a porté à ma conscience ?» Et elle verra que c'est l'œuvre du Seigneur. Alors crois qui que tu sois, et saisis cela car c'est l'opération de Dieu sur une âme croyante, le coup de la main de Dieu et la puissance de Dieu. Et alors tu as l'œuvre de la foi, par laquelle la foi te rend capable de te garder de la chose pour laquelle Dieu t'a frappé. Et avant qu'il ne t'abandonne, à la même heure tu trouveras la même main te frappant pour un autre péché. Cela sera comme un feu dans tes os, allumant ton zèle et ta haine contre ton péché, et allumant en toi un grand feu d'amour pour Dieu, qui ne t'a pas laissé dans. Cet amour, Dieu le répandra, et il débordera ton cœur. Il a répandu son amour, dit l'apôtre Romains 5:5, dans nos cœurs par le Saint-Esprit, pour nous contraindre à l'obéissance. Lorsque tu entres dans la voie de la foi, qui est l'opération de Dieu, le diable vient frapper et heurter de ci de là, mais Dieu ne manquera pas de te donner la puissance de résister à la tentation. Le Seigneur Jésus-Christ agit dans les cœurs des gens pour les détourner du mal de leur voie, afin de produire la sainteté et la justice, de racheter un peuple de la servitude du péché et de l'adapter au royaume de son Père, et pour reprendre les paroles de l'apôtre, de les présenter devant le trône de Dieu, sans tache et irréprochable. Il les purifiera et les aspergera pour les délivrer d'une mauvaise conscience, leur corps étant lavé d'une eau pure, il sanctifiera la créature, sa parole est près d'eux et dans leur cœur, il commence une. Ici se trouve l'œuvre principale. C'est la bonne main de Dieu qui doit accomplir en nous et pour nous toutes nos œuvres, selon le bon plaisir de sa volonté. Il doit opérer en vous la disposition à porter la croix du Christ et à vous renier, il agira pour vous dans ce but, vous devez donc vous remettre à lui. Ce n'est pas notre prédication qui convertira les hommes à Dieu, mais c'est l'œuvre de Dieu pure qui convertit l'âme à Dieu, qui la nettoie, l'adapte et la prépare au royaume des cieux, Psaume 19:7. Nous devons venir à la parole de Dieu dans nos cœurs, qui nous convaincra, nous reprendra, nous fortifiera, nous encouragera et nous éclairera, et fera en nous et pour nous tout ce dont nous avons besoin, à lui soit toutes les louanges, lui qui opère tout en vous et vous prépare à être un peuple particulier pour lui. Je vous confie à tous la parole de sa grâce, prenez garde de faire quoi que ce soit qui lui soit contraire, si vous le faites, ce qui aurait été votre réconfort sera votre condamnation. Sa prière après le sermon Dieu et Père béni de la vie, tu es glorieux en sainteté infinie en puissance, le Dieu éternel, ta domination est une domination éternelle, ton royaume est sans fin, ô Seigneur. Nous bénissons et louons ton nom glorieux, de ce que tu t'es fait connaître parmi les fils et les filles des hommes. Tu nous as révélé, dans ta parole, la manière de ton royaume parmi nous, en établissant la justice et la vérité, et en renversant l'iniquité, Dieu puissant de vie. Soumets les esprits et les cœurs de tout ton peuple à ta puissance et à ton bon plaisir divin, et que la crainte toi repose sur nos esprits, afin que chacun de nous craigne de pécher contre toi et d'outrager ton esprit, l'esprit de ta grâce, afin que chacun de nous se détourne de ses iniquités, du mal de nos cœurs et de nos voix, afin que nous te luions dans la terre des vivants et que nous devenions des témoins fidèles de ce salut que tu as accompli pour nous et pour tous ceux qui croient, Dieu puissant de vie. Les âmes de ton peuple que tu as rassemblées hors du monde louent et magnifient ton nom pour ce qu'elles ont vu et pour ce que tu as accompli, Tu t'es merveilleusement manifesté dans ton amour, tu as rapproché le salut et tu en as rassemblé beaucoup en lui, il est devenu pour eux un mur et un rempart, de sorte qu'ils sont défendus contre le mauvais et contre les maux du monde. Ô très cher Dieu de vie, relève les âmes pauvres et nécessiteuses de la poussière, afin qu'elles te servent, t'obéissent et fassent ta volonté, et qu'elles manifestent ta puissance et ta force dans leur faiblesse et leur infirmité, afin qu'elles se confient en toi et s'appuient sur toi au temps de leur détresse. Père béni de vie et de puissance, donne la grâce aux humbles et aux doux, et instruis-les dans ta voie. Nous avons fait l'expérience, ô Seigneur, de l'accomplissement de tes promesses, tu continues de les accomplir pour tous ceux qui t'attendent véritablement, tu as commencé une bonne œuvre, mène-la à son terme, pour la louange et l'exaltation de ton grand nom, Père béni. Révèle de plus en plus ta puissance dans les nations alentour, afin que ceux qui soupirent après la vie du Dieu vivant viennent et te trouvent, et contemplent ta manifestation divine par le Fils de ton amour, dans leur propre esprit, afin qu'ils reçoivent ta parole, et que ta parole les vivifie, qu'ils se relèvent d'entre les morts et vivent, car ce sont les vivants Seigneur qui te louent, qui honorent ton nom, qui offrent la louange et te glorifient, ô Père béni de la vie. Poursuis avec puissance ta grande œuvre sur toute la terre, rassemble un reste de ta semence qui est dispersée, et ramène-le dans le royaume de ton cher Fils, afin que nous te louions ensemble et nous réjouissions dans ton nom. Cher Père, tu as sauvé cette nation, la terre de notre naissance, jusqu'à ce jour, par une puissance merveilleuse, par ton bras puissant. Nos âmes sont profondément sensibles à l'extension de ta main toute-puissante dans notre préservation en ce jour. Si Père vivant, si tel est ton bon plaisir céleste, prolonge notre tranquillité et les bienfaits de ta miséricorde et de ta bonté envers ses habitants, afin qu'ils apprennent à te craindre et à se tourner vers toi de tout leur cœur, et qu'ils rompent par une vraie repentance avec tous ces péchés qui attristent ton Saint-Esprit, afin que, Père vivant de la vie, ils en viennent à marcher dans l'amour et l'union avec ta puissance céleste, à être en accord les uns avec les autres, à manifester la puissance de ta grâce qui leur a été révélée. Pour cela, nous t'offrons des louanges vivantes et des actions de grâce chrétienne, en est par le Seigneur Jésus-Christ, car tu es digne de toute louange, de toute gloire et de toute domination, au siècle des siècles. Amen. Sermon XIX, la puissante œuvre de la rédemption de l'homme prononcée par Stephen Crisp à Gracieux Street, le 8 février 1687. Mes amis, nous sommes réunis pour l'affaire la plus grave qui puisse concerner chacun de nous, attendre afin d'avoir une vraie connaissance du commencement, de la poursuite et de l'achèvement de la puissante œuvre de la rédemption, afin que les gens sachent que la rédemption s'opère dans leurs âmes, car l'âme de chacun a été perdue et captivée, et entraînée loin de la pure présence de Dieu. Tous ceux qui ont été souillés et pollués ont été exclus de sa demeure, ils ont été chassés dans le monde, et le monde est devenu un monde de misère, de distraction et de confusion pour les fils et les filles des hommes. Il y a eu angoisse, tribulation et colère sur toutes leurs âmes, et une insensibilité est survenue chez beaucoup, de sorte qu'ils n'ont pas eu conscience de la grande dépravation sous laquelle ils étaient tombés, et qu'ils n'ont pas été sensibles à la gloire de cet état et de cette condition qu'ils auraient dû goûter. Et dans cet état d'insensibilité, ils n'ont pas recherché le Seigneur, mais ont été captivés et entraînés par de nombreuses convoitises et plaisirs, par lesquels ils ont de plus en plus blessé leurs propres âmes. Et c'est dans un tel état que le Seigneur nous a trouvés, il nous a cherchés et nous a trouvés jetés dans la campagne, exposés au grand jour, et nous vautrant, pour ainsi dire, dans notre propre sang. Pourtant ce fut un temps d'amour, et il nous a manifesté son amour à cet égard, en ce qu'il nous a réveillés et amenés à sentir notre condition dépravée et déplorable, et qu'il a donné à un reste de percevoir qu'il y a une gloire plus excellente, une jouissance plus excellente, que tout ce que ce monde peut offrir. Mais un grand nombre de ceux dont les yeux sont suffisamment ouverts pour voir et discerner une gloire plus excellente ne peuvent pourtant pas la recevoir, parce qu'ils ne sont pas en état d'en jouir. Beaucoup en ont des lueurs et quelques petites visions des choses célestes, mais eux-mêmes sont terrestres. Beaucoup perçoivent qu'il existe une vie sainte, mais elle n'est pas la leur, car leur propre vie est impie, et pourtant ils savent qu'il y a une vie sainte et pure. Par là, des désirs sont implantés par la parole de vie dans les fils et les filles des hommes, par le Seigneur Jésus-Christ, le Médiateur, par lui, des désirs sont implantés dans les gens afin qu'ils puissent venir à jouir de cette vie de sainteté, afin qu'ils ne voient pas seulement un état meilleur que celui dont ils jouissent, mais qu'ils en viennent à en jouir et à le posséder pour eux-mêmes. Il existe chez les gens un désir universel d'avoir la vie éternelle, et ils croient qu'il y a une vie éternelle dont on peut jouir, mais tout le monde ne l'a pas, et la raison est qu'ils ne sont pas adaptés ni préparés à en jouir, car c'est une sorte de trésor qui n'est jamais mis dans un vase impur. Il faut un nettoyage et une purification, afin que des vases de terre puissent en venir à conserver et à contenir ce trésor céleste. Et lorsqu'on en vient à ceci que les gens doivent être nettoyés et purifiés, c'est ici que le monde recourt. Beaucoup ont crié en secret, « Que ferons-nous pour être sauvés ? Car tout ce que nous pouvons faire ne peut nous sauver. Nous avons retenu telle doctrine et telle autre, suivi tel chemin et tel autre, et fait beaucoup d'observances, mais tout cela ne nettoie pas notre âme, ni ne purge nos consciences des œuvres mortes, cela ne nous conduira pas à l'héritage de cette vie immortelle qui nous donnera satisfaction. Nous entendons beaucoup parler de satisfaction et de joie ineffable et pleine de gloire, mais voici un poids et un fardeau qui pèsent encore sur nos âmes. C'est pourquoi, mes amis, afin que tous ceux qui sont allés jusque-là, au point d'être sous un tel fardeau et une telle oppression, puissent être informés et en viennent à comprendre où se trouve le vrai repos, et où l'on peut trouver cette puissance capable de répondre aux tendres désirs qui sont engendrés en eux, c'est pour cette cause que le Seigneur notre Dieu a communiqué et donné la dispensation de l'évangile de son Fils à un reste qu'il a sanctifié, afin qu'il puisse dire une parole en son temps à l'âme fatiguée. Ce n'est pas un jour pour se moquer du péché, ce n'est pas un jour pour faire alliance avec la mort et l'enfer, et pour décider de poursuivre une vie méchante et d'y persévérer tous ces jours. Cependant, il y a une sorte de gens qui désirent qu'on leur adresse une parole en son temps lorsqu'ils sont là. Combien y en a-t-il, dans notre âge et notre génération, qu'on puisse compter de ce nombre, des pécheurs, vaincus par leur convoitise et leur corruption, et par la tentation de Satan et de ses instruments. Mais ils en sont là, c'est un fardeau pour leurs âmes, cela leur coûte bien des larmes amères, bien des soupirs et bien des pensées tristes et douloureuses en secret, de voir une gloire plus excellente et une vie meilleure que la leur, et pourtant de ne pas savoir comment y entrer. Mes amis, cette même parole divine de vie, par laquelle en tout âge, quiconque appartenait au peuple du Seigneur a jamais été restauré et racheté et acquis de nouveau pour le Seigneur, cette parole de vie a dû être à l'œuvre dans leur cœur. Et elle a été à l'œuvre en eux, autrement vous n'auriez jamais été ouverts à ce point. Quelque chose a débouché vos oreilles afin que vous entendiez. Et la raison de votre maintien dans vos liens, après avoir connu quelque chose qui aurait pu vous affranchir, c'est que vous n'avez pas embrassé de tout cœur ce que... Vous savez ce que l'apôtre a dit, ce n'est pas de nous-mêmes que vient même la capacité de penser une bonne pensée. Or tous reconnaîtront que c'est une bonne pensée lorsqu'un pécheur pense à se tourner vers Dieu et à quitter ses mauvaises voies, s'il avait la puissance et la capacité, et qu'il s'écrie « Si je savais comment tenir tête à la tentation, je ne pécherais plus jamais contre le Seigneur, cela doit être une bonne pensée dans votre esprit. » Comment s'y est-elle trouvée? Qui est l'auteur de cette pensée, direz-vous? Il faut l'attribuer à l'amour de Dieu en Christ, qui nous a convaincus et persuadés, et bien qu'il y ait péché et souillure, il ne nous a pas abandonnés au point de nous rejeter totalement, il a envoyé son esprit vivifiant, c'est-à-dire le Seigneur venu du ciel, afin de réveiller et de vivifier les gens pour qu'ils considèrent leurs conditions, et de les amener à sentir leur état présent, afin qu'ils puissent entrer dans un état meilleur que celui où ils sont à présent. Si l'on peut accorder que l'Esprit de Dieu et la grâce de Dieu sont l'auteur de ces désirs, alors on accordera en même temps que chacun de vous devrait être conscient que de tels désirs spirituels qui s'éveillent en vous proviennent du mouvement et de l'opération de l'Esprit de Dieu qui les a suscités dans vos âmes. Et alors j'espère que vous accorderez que, si vous vous étiez seulement unis à cet Esprit, et avec l'assistance de cet Esprit, tout aurait été possible par lui. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent siècle, tandis que nous recevons le bienheureux accomplissement de notre espérance, la manifestation glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité acte sans loi, péché et de se purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 11-14 La grâce nous montre de quoi nous détourner dans cette vie et enseigne comment vivre justement dans cette vie. Elle nous montre nos péchés puis les autres. Plus que le pardon, la grâce nous libère de l'esclavage du péché, et même du désir de péché. Nous recevons une force immédiate pour renoncer au péché, mais la suppression du désir se fait ensuite avec le temps. Ainsi, voici la première chose dont je voudrais que chacun soit convaincu dans son entendement, qu'il soit totalement exempt de telles touches et opérations de Dieu ou non. Car certains disent par ignorance qu'une grande partie de l'humanité n'a jamais connu de telles œuvres divines de l'Esprit de Dieu sur elle, en vue de sa conversion. Par conséquent, ce n'est pas en vain que vous considériez votre état et votre condition, car si vous ou moi ou quelqu'un ici sommes dans de telles circonstances qu'ils n'ont jamais eu ni ne sont jamais susceptibles. Si vous voulez réfléchir en vous-mêmes et mettre de côté les disputes des docteurs en théologie et des hommes savants, vous pouvez connaître les choses qui vous concernent. Les choses qui touchent aux autres, je peux laisser les disputes à leur sujet, mais quant aux choses qui concernent mon salut, il me faut en avoir une connaissance certaine. Il vous importe, mes amis, de savoir en vous-même, par une preuve infaillible de l'Esprit de Dieu, si vous avez reçu de telles touches, œuvres et opérations divines sur vos cœurs, qui vous êtes inclinés à chercher le Seigneur. J'espère pouvoir croire qu'il n'y a ici personne qui n'ait, dans son cœur, une réponse « J'ai eu en moi de telles touches et opérations ». C'est un grand amour de Dieu, plus que toute langue ne peut l'exprimer. Vous serez prêts à dire « Je n'ai pas mérité cela, je ne me suis pas comporté envers mon Créateur de manière à mériter qu'il s'occupe de moi et m'appelle ». Quand vous tournerez-vous et corrigerez-vous votre vie, et écouterez-vous celui qui vous a fait. Quand cesserez-vous de servir l'ennemi de Dieu pour servir celui qui est votre Seigneur légitime? Ainsi, c'est maintenant une grande aggravation de notre péché que d'y persévérer, tout en croyant que Dieu nous attend encore, et qu'il a pour nous une telle bonté que, de temps à autre, il touche nos cœurs par l'opération intérieure de son esprit et de sa grâce, en vue de la conversion. Or, quand cela est admis, et que les hommes s'établissent dans cette croyance, vous savez quelle en sera la conséquence. Lorsque je considère en moi-même que j'ai été sous ses œuvres, que j'ai été rebelle, méchant et désobéissant envers Dieu, et pourtant que le Seigneur n'est pas si irrité qu'il me rejette entièrement, mais qu'il attend encore pour faire grâce par l'opération de son esprit pour me rassembler à lui, afin de me sanctifier et de guérir mes rechutes, de remédier à ma faiblesse et à mes infirmités, et finalement de me sauver et de faire de moi un héritier de son royaume éternel. Quelle est la conséquence de cet amour? Eh bien, la résolution suivante doit être celle-ci, où je me révolterai contre sa grâce, où je résisterai à sa puissance, où je me soumettrai à lui, et cette soumission est la meilleure voie, la voie la plus sûre. N'y en a-t-il pas beaucoup, en ce siècle, qui sont aussi sensibles aux œuvres de la grâce de Dieu pour leur conversion que vous et moi l'avons jamais été, qui sont aussi sensibles que Dieu les a appelés à la sainteté et à la justice que quiconque parmi nous peut l'être, et pourtant ils ont résisté à la grâce de Dieu. Ils ont dit dans leur cœur, « Nous ne nous soumettrons pas à cette puissance, qui nous rendrait si saints, si vigilants, si prudents, diligents et obéissants, précisément pour cette raison, parce qu'elle contrariera mon intérêt, elle contrariera mon plaisir, elle entravera mes préférences dans le monde et ma réputation parmi les hommes, et pour cette raison je ne porterai pas ce joug. » J'aimerais espérer qu'il n'y en a ici aucun de ce genre, qui ait fait une telle alliance avec la mort et l'enfer, se livrant au diable pour le servir tous les jours de leur vie. Nous qui sommes en ce moment, et dans cette assemblée, sous l'opération de la grâce de Dieu, et qui sentons le Seigneur nous appeler par sa grâce et agir sur nous par son esprit, entrons ensemble dans une résolution sainte et solennelle, nous obéirons à ce bon esprit, nous le prendrons pour guide, et nous nous soumettrons fût-ce à une croix. Ainsi les gens penseront qu'ils prendront cette résolution lorsque l'œuvre de la rédemption est commencée dans leur âme, et lorsqu'ils sont convaincus de leur péché et que leurs yeux sont ouverts pour voir le chemin de la sainteté, et même s'ils ne prennent jamais la résolution d'y marcher, chacun sera néanmoins convaincu et verra qu'il y avait une meilleure voie que la sienne, et sera convaincu par la grâce de Dieu tôt ou tard astérisque que quant à l'action de Dieu cela commence, mais quant aux hommes qui devraient s'unir à l'opération de Dieu. C'est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il veut, voilà un esprit amené à se soumettre à la grâce de Dieu, Dieu est capable de faire pour lui ce qu'il ne peut faire pour lui-même. Astérisque ce, tôt ou tard, où chacun sera convaincu arrive soit dans cette vie, soit dans la vie à venir, une personne prenant alors sa part dans les temps de feu. Voir is there hope for all, pour plus. Quand les gens viennent au véritable objet de leur foi et exercent leur foi sur cet objet, ils trouvent chaque jour un progrès, une avancée dans l'œuvre de la grâce, selon l'œuvre de la grâce dans leur âme. Et il y a une puissance qui les incline à croire. Ce n'est pas vrai de s'écrire que s'ils avaient de la puissance, ils feraient davantage. Celui qui a l'esprit de grâce, l'esprit de Christ, à qui toute puissance au ciel et sur la terre a été donnée, pour l'exercer expressément afin de ramener les hommes et les femmes à Dieu, celui qui est devant. Il s'écrie, « Voici une tentation qui m'emportera, ô Seigneur, aide-moi, étends le bras de ta puissance et sauve-moi, plante ta crainte dans mon cœur et délivre-moi, et leurs yeux verront leur sauveur, a dit le prophète. » Ainsi, quand un homme en vient à s'attacher au véritable objet de la foi, et s'exerce à produire des actes vivants de foi en Christ, ses yeux verront son Sauveur, la lumière qui brille dans son cœur lui découvre la tentation, et lui montre aussi un Rédempteur tout proche. Son Sauveur est près de lui, et il se confie en lui, s'appuie sur lui, et dit « Cette parole de Dieu est dans mon cœur, et je crois vraiment que bien que la tentation qui m'assaille soit forte, elle ne prévaudra pas qu'il s'agisse des profits, des plaisirs ou des honneurs. Si je mets ma confiance en cette puissance, je ne peux pas m'approcher du mal. Je suis chrétien, j'ai conclu une alliance dans le christianisme, je ne m'unirai à rien sinon à ce que Dieu approuve. Maintenant, lorsque j'ai représenté à mon esprit la tentation du diable et ce mal qu'il met devant moi, et que je sais que cela est contraire à la pensée de Dieu, comment puis-je entrer dans ce mal et rompre mon alliance avec Dieu, après être entré en alliance avec lui pour l'aimer, le servir et lui obéir? La puissance de la grâce sur de telles âmes, l'opération de la grâce, est si forte que la tentation vient et passe, et elles sont sauvées et délivrées parce que Dieu les aide. Mais si elles cèdent à la tentation, alors tribulation, colère et angoisse poursuivent tous ceux qui sont rebelles et désobéissants à la volonté de Dieu. Or, cette rédemption s'accomplit progressivement de jour en jour, la vérité que vous croyez agit par degrés, vous êtes délivrés d'abord d'une mauvaise pratique, puis d'une autre mauvaise œuvre. Mais il y a bien davantage, vous vous réjouissez et vous êtes heureux d'être délivrés d'un péché, mais vous seriez plus heureux encore d'en être délivrés de tous. Je parle à ceux qui sont sérieux au sujet de leurs âmes immortelles, lorsqu'ils se voient délivrés d'un mal dans lequel ils étaient prêts à se précipiter, ils seraient heureux d'être rachetés de tout mal, que leur contrariété et leur humeur chagrine, leur emportement et leur légèreté soient ôtés. Ils devraient être heureux d'être délivrés de tous leurs péchés. Que pensez-vous, disent certains, qu'un homme, tant qu'il vit ici, puisse en venir à voir tout péché, tout mal et toute corruption soumis, et qu'il ne demeure en lui que sainteté, justice et vérité, et qu'il n'y ait plus que simplicité et innocence? Pensez-vous qu'une telle chose puisse être? Pourquoi ne le penserais-je pas? Vous m'accorderez que la puissance de la grâce est capable d'obtenir une telle puissance et une telle victoire sur le péché et la corruption que vous pouvez en venir à le haïr autant que vous l'avez jamais aimé. Si vous m'accordez cela, la conséquence suivra. Celui qui m'a donné la victoire sur le péché peut me donner la puissance sur tout péché. Tous les chrétiens croient que la puissance de Dieu est infinie. L'Écriture atteste que toutes choses sont possibles à Dieu, avec qui nous avons affaire. Si toutes choses sont possibles à Dieu, assurément ceci est possible. Rien n'est aussi contraire à Dieu que le péché, et Dieu ne souffrira pas que le diable règne toujours sur son chef-d'œuvre l'homme. L'humanité est le chef-d'œuvre de Dieu, la créature la plus éminente de ce monde inférieur, faite à la ressemblance de Dieu. Et bien que le diable ait maintenant amené les hommes à sa propre ressemblance, rien ne peut être plus contraire à la pensée de Dieu que le diable ait domination sur nous, car Dieu voudrait lui-même nous gouverner. Quand nous considérons l'infinité de la puissance de Dieu pour détruire ce qui lui est contraire, qui peut croire que le diable doive toujours tenir bon et l'emporter? Je crois que cela est incompatible et contraire à la vraie foi que des gens soient chrétiens, et pourtant croient que Christ, le Fils éternel de Dieu, à qui toute puissance au ciel et sur la terre est donnée, permettra au péché et au diable d'avoir domination sur eux. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel je puisse être sauvé, c'est pourquoi j'ai mis ma confiance en lui. Si le diable doit régner sur moi ici, alors je ne puis être soumis à Christ en toute chose, je puis aller aux assemblées, mais je ne pourrai jamais maîtriser le diable et ses tentations. Cela est aussi incompatible avec la foi d'un chrétien que la lumière avec les ténèbres, et Christ avec Bélial. Si les chrétiens se croient de vrais croyants, qu'ils voient alors jusqu'où leur foi peut aller, si elle ressemble à cette foi qui a été autrefois transmise aux saints, car par cette foi leurs cœurs furent purifiés, et ils devinrent libres du péché, Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et serviteurs de Dieu, dit l'apôtre, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Vous étiez serviteurs du péché, mais maintenant vous êtes libres du péché. Ainsi cette foi n'en est qu'une, et si les hommes en ont acquis une autre, elle ne leur servira à rien. Prenez garde de ne pas vous tromper sur votre foi. J'ai entendu certains hommes savants dire qu'un croyant est un esclave du péché, et qu'il le sera probablement toujours, mais qu'il n'est pas en même temps affranchi de la justice, car la justice de Christ lui est imputée, et Dieu le considère comme juste dans cette justice. Il ne peut y avoir de doctrine plus anti-apostolique que de croire que l'on puisse être esclave du péché et pourtant avoir l'imputation de la justice du Christ. « Je puis être esclave du péché, disent-ils, pourtant Christ est juste, il est la justice de Dieu, il a accompli la volonté de Dieu et a acquis le salut pour moi, et il est l'objet par lequel je suis rendu juste. » Considérez ceci. L'imputation de la justice de Christ ne me fera jamais du bien jusqu'à ce que j'en vienne à participer à sa justice, jusqu'à ce que sa justice devienne ma justice, en moi et pour moi. Christ nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption, de sorte que si un pécheur, quelqu'un qui était pécheur l'autre jour, vient par la foi en Christ à avoir le cœur nettoyé et purifié, et que la vraie justice soit plantée en lui là où le péché était planté, là le péché par le sang de Christ est nettoyé et purifié. Ainsi Christ est fait justice pour moi, et non pas sa justice simplement imputée et comptée à mon égard. Christ est ma sagesse, je suis un insensé sans lui. Christ est fait justice pour moi, car mes bonnes œuvres et ma vie sainte ne peuvent être agréables à Dieu que si elles sont accomplies en lui et recommandées à Dieu par lui. L'œuvre propre de la foi est de fixer l'âme sur celui qui opère toutes choses en nous et pour nous, qui opère en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, et c'est le bon plaisir de Dieu que nous vivions dans toute justice. Ceux qui viennent à recevoir cette foi au commencement doivent la recevoir d'un sentiment intérieur qu'ils ont, l'opération de la parole de Dieu en eux. Ainsi l'apôtre estime la foi, non parce qu'un tel entend et qu'un tel croit ce qu'un tel prêche, mais la foi est l'opération de Dieu. Vous pouvez m'entendre et mille prêcher et malgré tout mourir incrédule, à moins d'en venir à ceci, connaître l'opération de Dieu et l'œuvre de la foi en vous. Comment mon cœur s'unit-il à cela? Comment mon âme s'attache-t-elle à cela? Quelle vertu et quelle puissance est-ce que je sens en moi-même? Il se peut que d'autres qui prêchent sentent la puissance, mais est-ce que je la sens? Sinon, je ne viens qu'à un bruit et à un son. Si les gens ne sentent pas leur cœur s'unir à la parole prêchée, il n'en résulte aucun profit pour eux. Vous lisez dans l'Écriture que la parole prêchée n'a pas profité parce qu'elle n'était pas mêlée de foi chez ceux qui l'entendaient. C'est votre cas, vous venez à l'Assemblée, et vous aimez entendre prêcher la doctrine de la vérité. mais je vous le dis, et je vous parlerai franchement, à moins que vous ne veniez à sentir l'opération de la parole de vérité dans vos cœurs, vous pouvez entendre l'évangile et la parole de vie prêchée, mais cela ne vous profitera guère. Comment est-il possible qu'un homme ait un témoignage contre l'ivrognerie et soit pourtant ivre, un témoignage contre l'impureté, et soit pourtant impur? Comment un homme peut-il entendre un tel témoignage et y croire, et pourtant commettre le péché? Il l'a entendu, mais il n'en a pas senti la vertu en lui-même, et ainsi il n'a pas mortifié le péché auquel il était enclin. Mais ceux qui viennent s'unir à la vérité et reçoivent avec douceur la parole implantée y trouvent sa puissance et sa capacité. Ils trouvent combien elle est capable de sauver leurs âmes. Ils trouvent comment elle agit, non seulement au moment où ils l'entendent, mais elle les accompagne, elle demeure avec eux. Et ils trouvent sa vertu couvrant leur âme avec la crainte et la terreur du Seigneur, non pas avec les paroles qu'un homme. J'ai connu la doctrine de plusieurs sectes qui ont été parmi nous, et la principale chose pour laquelle beaucoup sont passés d'un groupe à un autre, c'est ceci, qu'ils puissent savoir ce qu'un tel expose de plus qu'un tel autre, et ils pensent que la vérité est plus claire parmi tel peuple que parmi d'autres. Si vous examinez la chose, c'est ceci, qui a le mieux prêché et prouvé sa doctrine. Hélas, quand bien même ils concorderaient tous et prêcheraient une doctrine aussi certaine et infaillible que Christ et ses apôtres ont jamais prêché, tout cela ne nous ferait aucun bien à vous et à moi, à moins que nous ne connaissions la puissance. Vous savez qu'il y eut des milliers de personnes qui entendirent Christ prêcher, comme vous m'entendez maintenant, et certains furent si saisis par lui qu'ils s'en allèrent en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Mais étaient-ils tous chrétiens? Ont-ils reçu la vie par lui? Non, certains d'entre eux étaient prêts à le lapider. Or, ramenez cela à vous-même et considérez si quelques-uns d'entre vous ne sont pas dans le même état. Lorsque vous entendez prêcher la vérité, votre esprit y donne assentiment et s'y accorde. Mais lorsqu'il s'agit d'obéir à un commandement, de porter une croix, de pratiquer le renoncement à soi-même, ou que quelque augmentation de commerce se présente sur le chemin, que la vérité aille où elle voudra, vous devez suivre votre intérêt, il manque quelque chose pour s'attacher au principe de vérité, qui est capable de vous sanctifier et de vous perfectionner. Ceux qui sont résignés et livrés à la vérité peuvent être satisfaits. Ils ont un témoignage infaillible de l'esprit de vérité rendant témoignage avec leur esprit qu'une telle chose est mauvaise, et quand bien même le monde entier la ferait, eux ne la feront pas. Que sont pour moi le profit et le plaisir? Mon plaisir est à la droite de Dieu, et mon profit est d'obtenir la grâce et d'avoir une entrée abondante dans le royaume éternel de Dieu. Ceux qui ont la vraie connaissance de Christ ont assez de profit et d'avantages, de plaisirs et de délices qui sont cachés au monde et le resteront toujours. Ils recherchent un profit et un plaisir qu'ils peuvent avoir avec une bonne conscience. Les choses que Dieu leur accorde comme bénédiction dans ce monde, ils ne les méprisent pas, mais les reçoivent avec action de grâce et s'en servent pour sa gloire. Mais s'ils ne peuvent avoir profit ou plaisir sans pécher contre le Seigneur et contre leur propre conscience, que ceux qui le veulent prennent un tel profit et un tel plaisir. Ceux qui viennent ainsi à s'attacher à la vérité ont en eux une preuve infaillible. Ils ne pensent pas que c'est ainsi ou ainsi parce qu'un tel a dit que c'était ainsi, mais ils ont en eux-mêmes une preuve infaillible. C'est la pensée du Seigneur, Dieu l'a signifiée par son esprit et l'a scellée sur mon esprit, et je ne puis que le savoir. Quoi professez-vous l'infaillibilité? Oui, sinon je me tairais, si je ne savais pas infailliblement ce que j'affirme, je ne prêcherais plus jamais. La vérité peut bien des fois être dissimulée. Un homme peut avoir lésé et trompé son voisin, et celui-ci ne pas le savoir, cet homme s'en va, et son voisin ne le lui reproche pas, mais lorsqu'il vient à être couché dans son lit, il ressent une piqûre et un reproche dans sa conscience pensant « Je sais que je lui ai fait du tort, n'est-ce pas infaillible ?» Laissez-moi consulter quelques hommes savants, afin de savoir si j'ai menti. Je n'ai pas besoin d'aller vers des savants et des philosophes pour savoir si c'était un mensonge. Je suis infaillible sur ce point, je sais avec certitude que ce n'était pas un mensonge, j'en ai une preuve certaine, et si 1000 hommes me disent le contraire, je ne les croirai pas. S'il y a ici de l'infaillibilité, n'y a-t-il pas alors de l'infaillibilité dans la parole de vérité? La mettrai-je en question ou en douterai-je, si j'en ai un témoignage infaillible? Quand bien même des hommes auraient fort peu progressé, s'ils l'ont sur des bases sûres et des fondements durables, que 1000 hommes viennent avec toute leur habileté logique et leur philosophie, ils ne pourront jamais détourner un homme du témoin qu'il a en lui-même. Le reste que Dieu a amené sur ce fondement a une certitude et une infaillibilité dans l'obéissance qu'il rend à la volonté de Dieu et dans la consolation qu'il trouve dans l'obéissance à la loi de Dieu qu'il a écrite dans leur cœur. Quoi qu'il arrive, ils ne pourront jamais en être ébranlés, car cela dépasse tous les préceptes et doctrines des hommes, c'est le précepte et la doctrine de Christ et de ses apôtres, que les gens les lisent et s'efforcent de les pratiquer. Mais voici que vient le témoignage, la puissance divine par laquelle le précepte a été donné alors, et qui est maintenant donné de nouveau à vous et à moi avec la même vivacité et la même puissance. Accomplissons-les comme les premiers chrétiens le faisaient. Ici, la consolation vient désormais découler d'un fondement établi qui ne sera jamais ébranlé. Les vents sont venus souffler sur la religion, quel que soit le vent qui souffle et puisse souffler, Dieu a bâti son Église sur un roc, et elle demeurera inébranlable contre toute opposition, heureux ceux qui y sont fondés. Dieu nous a-t-il fixés et établis dans notre société les uns avec les autres et avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le fondement sur lequel Dieu l'a placé. Nous désirons que tous les hommes parviennent à la même stabilité et assurance et ne soient plus ballottés par les vents de doctrine, mais soient édifiés sur Jésus-Christ, le rocher des siècles, le rocher de nos âges, le rocher de nous et de nos enfants. Que Dieu nous fasse avancer dans cette communauté, c'est le désir de nos âmes, pour nous-mêmes et pour tous nos amis et compatriotes. La voie pour vous d'être bénis et de tirer avantage, pour vos âmes immortelles, du témoignage qui a été suscité, est d'avoir égard à l'action de cette même puissance, afin que vous veniez à participer aux bénéfices de ces dons et grâces que Dieu a accordés à son Église. Sa prière après le sermon Dieu est Père de vie, très béni et glorieux. Que tu es merveilleux, dans tes apparitions à ton peuple au jour de ta puissance, où tu as étendu ton bras et rassemblé un reste de ceux qui étaient dispersés, et où tu rassembles encore et ramènes à toi ceux qui ont été chassés, et tu as fait connaître ta puissance et ta bonté dans le cœur des fils et des filles des hommes, afin qu'ils t'aiment. Pour engendrer en eux l'amour pour toi, tu as fait connaître ton amour à leur cœur. Si tu ne nous avais pas aimés le premier, nous ne t'aurions jamais aimé. Mais tu as répandu ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin de nous contraindre à t'aimer. Ton amour est manifesté à tous ceux qui soupirent après toi, et nul ne soupire après toi sinon par la vie que tu lui donnes. Et ceux qui étaient morts dans les péchés et les offenses, tu les as vivifiés, et nous voudrions faire monter tes louanges et nos actions de grâce pour les grandes choses que tu as faites pour nous en Jésus-Christ. Toutes tes œuvres te louent et tes saints te bénissent. Saint Père de vie, augmente et multiplie ces grâces et ces saints désirs que tu as commencé d'opérer en nous, et déracine toute plante que ta droite n'a pas plantée. Que Sodome spirituel soit consumé, et tout ce qui est corrompu, que les choses que tu as plantées germent à la louange de ton nom et au salut des âmes que tu as rassemblées. Ô Dieu de vie puissant, que ta présence bénie et ta crainte vivante soient parmi nous, afin que tous tes enfants offrent des louanges et les sacrifices d'humbles actions de grâce sur ton saint autel. Lève-toi, ô Seigneur, toujours davantage dans la grandeur de ta puissance, et dissipe les nuages de ténèbres qui ont été sur les fils et les filles des hommes, et suscite en chacun de nous, toujours davantage, de saints désirs et des soupirs après cette vie qui est éternelle. Que ceux qui ont été dispersés soient maintenant rassemblés, et que ceux qui ont été chassés dans une nuit nuageuse et obscure soient amenés à un jour glorieux et béni, où ils pourront jouir de l'Évangile qui apporte la lumière aux âmes dans les ténèbres, afin que des louanges et des actions de grâce soient offertes dans ta maison pour ta sainte présence avec nous, afin que nous y soyons nourris lorsque nous sommes assemblés en ton nom, selon ta promesse. Continue d'être au milieu de nous, afin que des louanges et des actions de grâce vivantes te soient offertes par Jésus-Christ, car toi seul en es digne, toi qui es Dieu sur toutes choses, béni à jamais. Amen. Sermon XX, la parole de Dieu. La vie d'un chrétien prononcée par Stephen Crisp à Gracieux Street, le 4 mars 1687, c'était la doctrine du grand maître de la religion chrétienne, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, publiait et faisait connaître le chemin du salut parmi les fils et les filles des hommes. Il prêchait alors et déclarait que ce n'est pas seulement de pain qu'un homme vit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la voie est le moyen de la conservation de l'homme dans la vie, dans un état vivant, la méthode et le cours que le Dieu du ciel ouvre pour maintenir en vie les fils et les filles des hommes, c'est par cette parole. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu contient un ministère de vie, astérisque, et par conséquent, tous ceux qui désirent jouir de la vie immortelle et la conserver et l'accroître doivent attendre avec diligence pour devenir participants de ce ministère divin. Le pain extérieur est pour la conservation extérieure, mais l'homme est fait au-dedans comme au-dehors, il a une âme aussi bien qu'un corps. Ainsi Christ, pour nous signifier de quoi l'homme intérieur est nourri et alimenté, nous dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les paroles que nous entendons nous communiquer donnent la vie de Dieu, Jean 6, 63, si nous obéissons, mettons en pratique et gardons les commandements et les enseignements que nous entendons. Ainsi de nos jours comme dans les temps passés, il a plu à Dieu de donner à un reste une connaissance expérimentale de la vérité de ceci, ils ont été vivifiés et rendus vivants par la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils l'ont entendu, senti et goûté la parole de vie qui était avec le Père avant que le monde commençât, et qui leur a été divinement dispensée par la miséricorde de Dieu par Jésus-Christ. À beaucoup qui étaient morts dans les offenses et les péchés, il a dit « vie ». Il a donné à beaucoup un sentiment intérieur de leur état, qui auparavant n'en avait aucun. Il a amené main individu à sentir le péché comme un fardeau et une charge oppressante, alors qu'auparavant il prenait parfois plaisir et délices dans le péché. C'est un grand changement qui s'opère dans l'esprit d'un homme, qu'il en vienne à être chargé, accablé et oppressé par ce qui faisait auparavant son plaisir et son délice. Pourtant ce grand changement a été opéré en bien des âmes par l'action de la parole de Dieu, de cette parole intérieure, de cette voix intérieure, lorsque le Seigneur a pris les hommes en main lui-même. Il y en a beaucoup qui ont pris des pécheurs en main et se sont efforcés de les convaincre et de les convertir, mais ils n'y sont pas parvenus. Mais lorsque le Seigneur a pris lui-même les hommes en main, lorsque leur Créateur a entrepris de traiter lui-même avec un homme, alors l'homme s'écrie « Je suis un ver et non un homme », alors il crie sous le sentiment du jugement de Dieu, alors il crie sous l'indignation du Seigneur qu'il a allumé par ses péchés, il crie pour la miséricorde, alors il prie pour la rémission, alors il souhaite. Or, là où certains parviennent à une connaissance expérimentale de la parole du Seigneur, de cette voix intérieure par laquelle Dieu parle aux fils et aux filles des hommes, ils reçoivent par là une vision infaillible de leur propre état et condition, c'est la première leçon apprise par elle. Ils en viennent à avoir une connaissance certaine et infaillible de leur propre état, et ils sont sûrs de ne pouvoir être trompés, car elle apporte avec elle une preuve dans leur conscience, de sorte que tout ce que cette parole de vie signifie à un homme, il en a la connaissance et la confirmation dans sa propre conscience, comme l'a dit l'apôtre. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ici se trouve donc un moyen pour les hommes d'obtenir une connaissance divine par un moyen divin, car le Seigneur parle par son esprit, et si les hommes en viennent à prêter l'oreille à cette voix, à cette parole, ils perçoivent aisément ce qu'elle leur dit. Le Seigneur dit aux gens aujourd'hui comme aux âges passés ce qu'il a contre eux, et chacun, dans le secret de son propre cœur astérisque, en vient à le comprendre. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse ce que notre Seigneur Jésus-Christ a ordonné à Jean d'écrire aux sept églises d'Asie, qu'il avait peu de choses contre certaines et beaucoup de choses contre d'autres. Astérisque remarque. Crispe, qui demeurait dans le royaume lorsqu'il a prononcé ces paroles, a identifié le « cabinet » ou la chambre intérieure de Matthieu 6 si comme étant au-dedans de nos cœurs. Or, quel est le dessein de notre assemblée lorsque nous sommes réunis, sinon que nous puissions connaître quelle est la pensée et le jugement de Dieu à notre sujet? Comment le saurons-nous si nous ne lui demandons pas, et si nous ne venons pas l'attendre, et nous enquérir auprès de l'oracle de conseil que Dieu a établi dans le sein de chaque homme? Car il signifie sa pensée aux enfants des hommes par cette lumière et cette grâce que Jésus-Christ a plantées en eux, il a éclairé tout homme venant au monde d'une lumière qui ne trompe pas, et il a dispensé de sa vérité et de sa grâce à tout homme, bien que l'homme soit mauvais et infidèle, et dans les ténèbres, et qu'il y ait des ténèbres en lui, la lumière pourtant brille dans les ténèbres. L'homme peut être un homme faux, pourtant il y a en lui une vraie connaissance si cet homme écoute la voix de la vérité, lorsque le Dieu de vérité lui signifie quelle est sa pensée et son jugement à son égard, et quant à son état présent. Ainsi une occasion est offerte, et si un homme croit la parole de vérité, qui est administrée à son propre esprit, il ne peut pas dire qu'un tel l'a trompé, car c'est la vérité elle-même qui lui est signifiée et qu'il croit. Car la vérité est l'objet de sa foi, et il croit qu'elle est venue à lui. Il croit que, tant qu'il demeure méchant dans son état non renouvelé, il est hors de l'alliance de Dieu, et sur la grande route de la perdition s'il n'en sort pas, ne revient pas à Dieu et ne s'acquitte pas de son devoir. Il le croit et il croit la vérité. Cela a été ainsi pour beaucoup, cela a été ainsi pour nous tous. C'est la première sorte de foi et de croyance que nous recevons jamais, car lorsque la vérité nous signifie notre état déchu, notre état d'aliénation, lorsqu'elle nous signifie et nous découvre la séparation de péché et d'iniquité que nous avons édifiée, par laquelle la gloire et la faveur de Dieu ont été cachées à l'âme, nous avons cru cela vrai. Nous aurions voulu être considérés comme héritiers du royaume de Dieu, pourtant, lorsque nous avons commencé à écouter la vérité, nous trouvons que nous sommes enfants du diable et faisons ses œuvres. Un homme croira-t-il cela après avoir été 40 ans un professant du christianisme? Si un homme croit la vérité, il n'y a aucun danger à la croire, quand bien même c'est sa propre destruction qui est menacée. Or, la grande chose que je voudrais introduire dans le cœur des hommes, c'est qu'ils puissent croire la vérité pour l'amour de la vérité. Si les hommes veulent croire la vérité, ils doivent croire beaucoup de choses contre eux-mêmes, qu'ils ne sont pas facilement disposés à croire, mais dit Christ, nul ne peut être mon élève ou mon disciple s'il ne se renie lui-même. Je dois me renier moi-même, mes prétentions au christianisme, ma sainteté supposée, et mon titre au royaume de Dieu. Or, si je veux être convaincu que je suis un homme méchant, un homme profane, quelqu'un qui ne vit pas comme il convient à l'Évangile, je dois croire la vérité, la voix de la vérité étant d'une certitude infaillible, elle est signifiée divinement par la parole immortelle qui ne peut nous tromper. Voilà pourquoi les gens devraient croire son témoignage, quand bien même il est contre eux-mêmes. Ceux qui le font trouvent aussitôt ses effets, car auparavant ils étaient dans leurs péchés et leurs offenses, et ils y sont encore. Ils étaient auparavant dans une sorte de liberté, dans une sorte d'aisance et d'indulgence envers eux-mêmes, et leur péché demeure encore en eux, et ils y demeurent, mais ils sont maintenant sous un sentiment de tristesse, sous un poids, sous un fardeau, sous une oppression, ce qui signifie qu'ils sont vivants et vivifiés. Car si vous faites une comparaison extérieure, ils ne restent pas insensibles et morts. Quoi que vous chargiez sur un homme mort, il ne gémira ni ne se plaindra, mais s'il revient à la vie, il crie « ôtez le fardeau, le poids et le... » C'est là la différence entre être mort dans les péchés et les offenses, et être ramené à la vie et à la sensibilité. Cette parole de vie qui sort de la bouche de Dieu engendre un sentiment chez tous ceux qui la reçoivent, elle est de grand service et d'un grand usage, afin que tous les peuples en soient familiers, ceux qui désirent être héritiers de la vie éternelle, ceux qui désirent être héritiers du royaume de Dieu. Mais comment y parveniront-ils? Ils pensent par telle ou telle obligation, et par des accomplissements temporaires, l'obtenir? Non, s'ils veulent la vie, ils doivent la recevoir du Dieu de vie qui les a créés, il doit les recréer pour de bonnes œuvres. Ils ne peuvent l'obtenir que d'une seule manière, tous doivent y être amenés par cette voie. Cela ne peut se faire en entendant un homme prêcher, à moins que l'Esprit n'accompagne les paroles prêchées de la parole de Dieu. Il n'y a aucune possibilité d'être vivifié, et la nécessité m'oblige à écouter et à avoir égard à ce seul moyen. Or je vous dis, dit Christ, parlant de la manière de vivre pour l'éternité, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand nous avons compris ce texte, tel que prononcé par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons conclu qu'il était possible de comprendre et d'entendre cette voix intérieure et cette parole de vérité dans nos propres cœurs, que Dieu nous parlait par son Fils Jésus-Christ, qui nous a éclairés. C'est pourquoi des assemblées furent d'abord instituées afin que la parole y dispense la vie, et la vie à ceux qui y assistent, et jusqu'à ce jour nos réunions sont établies dans ce but, que nous ayons la manifestation de la vie et de la vertu venant de Christ, la source de la vie et de la vertu, par qui nous devions être vivifiés et fortifiés, et par qui ceux qui étaient morts dans les offenses et les péchés ont été vivifiés. C'est pourquoi je voudrais que chacun garde toujours une révérence pour la parole de vie qui parle en lui-même, car si nous parlons comme nous sommes mus par l'Esprit de Dieu, et exprimons par témoignage verbal les choses que Dieu nous a fait connaître, si vous n'avez pas un oracle dans votre sein, si vous ne percevez pas en même temps un écho de la vérité dans votre propre âme, cela ne vous fera aucun bien, mais ne sera qu'un son vide qui s'évanouira, mais l'esprit sérieux et posé, qui attend Dieu avec un désir ardent de recevoir. Là où les gens se réunissent ainsi, ils n'ont pas seulement une administration de doctrine venant du dehors, de tel ou tel instrument, mais ils ont en eux-mêmes un ministère de la parole de Dieu, par laquelle un homme vit. Ne nous laissons pas entraîner et emporter par la grande erreur des temps, la grande erreur de ce siècle et des siècles passés, qu'il n'y a aucune possibilité pour les gens de comprendre et d'entendre cette voix de Dieu, cette voix intérieure. Il n'y a plus, disent-ils, d'enseignement direct de Dieu de nos jours, plus d'inspiration de nos jours, ils pourraient tout aussi bien dire qu'il n'y a plus de conversion de nos jours. Je le prouverai par les saintes Écritures, il n'y a aucun homme en ce siècle qui soit susceptible d'être converti à Dieu, ou racheté de son iniquité, et amené à la connaissance de son Créateur, s'il ne l'a par l'œuvre intérieure du Dieu éternel. Non par la prédication et l'instruction de l'homme, ni par la lecture de tous les bons sermons qui aient jamais été prêchés, sans la coopération du Saint-Esprit sanctifiant, qui engendre la vie chez ceux qui croient. Et si ces hommes disent que nul ne peut être converti, alors nous devons tous courir tête baissée en enfer, eux et tous les autres. Au XI siècle, nous entendons de nombreuses sectes prétendre que la prophétie et la révélation ont cessé et que la Bible est l'unique moyen de connaître Dieu, et elles disent cela sans le moindre passage de l'Écriture pour étayer leur affirmation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y avait de la révélation hier, il y a de la révélation aujourd'hui, et il y aura de la révélation pour toujours. L'Écriture dit que ce qui peut être connu de Dieu est révélé en l'homme comme Dieu le leur a montré. Romains 1:19. L'Écriture dit que le Fils et Dieu sont révélés par le Fils. L'Écriture dit qu'il n'y a rien de couvert qui ne doive être révélé, ni de caché qui ne doive être connu. Matthieu 10:26. Les ministres qui nient la révélation et la prophétie sont spirituellement sourds et spirituellement aveugles, en captivité, parce qu'ils ont conduit d'autres en captivité. Ils veulent vous convaincre que vous devez vous limiter à l'Écriture, et particulièrement au sous-ensemble limité d'écrits qu'ils considèrent comme vrais, ainsi ils peuvent vous contrôler. Car si vous commencez à écouter Dieu, ils perdent leur contrôle. Vous verrez rapidement qu'ils sont les faux prophètes dont Jésus a dit qu'ils viendraient, que les apôtres ont vu sortir d'entre eux comme des antéchrists dans le monde, et que maintenant le monde entier suit, comme le livre de l'Apocalypse l'avait prédit. Jésus a dit, « Apprenez de moi, tous les hommes seront enseignés par Dieu, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » Jésus n'a pas menti et il enseigne encore. Les guides aveugles peuvent dire, ces Quakers peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il n'y a plus d'enseignement immédiat de nos jours, personne ne peut connaître la pensée de Dieu, ni comprendre les Écritures. Personne ne peut vous les ouvrir. Mais béni soit Dieu, ces ténèbres sont ôtées. Ce voile a disparu et a été retiré, l'éclat de la gloire de l'Évangile a chassé ces ténèbres, et des milliers aujourd'hui non seulement entendent le ministre les reprendre, mais ils entendent une voix intérieure qui les reprend pour l'iniquité, et ils trouvent et ressentent un jugement et un tribunal en eux-mêmes, et que Dieu a une voix directe pour les conseiller et les instruire, s'ils veulent l'écouter. Vous qui éprouvez quelque chose de cela, qui êtes parvenu à une telle perception intérieure de l'action de la parole de Dieu, si vous l'avez entendu vous reprendre, vous exhorter, vous juger et vous condamner, considérez que cette parole est sortie de la bouche de Dieu, et non de la bouche d'un homme. Vous entendez la sentence de Dieu sur vous dans vos propres consciences. D'où vient-elle? Elle vient de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu dispense vie, sens et conviction, et vous la sentez et la recevez, et vous pouvez en avoir une connaissance plus familière. Il ne se passe pas un jour ni une heure au-dessus de vos têtes ni de la mienne, ou si nous prêtons attention à cette voix intérieure, nous ne puissions savoir ce qu'elle nous dit par ses conseils, ses doctrines, ses réprimandes, ses convictions et ses illuminations, car l'Esprit parle expressément, avec un message explicite à l'Esprit de l'homme. Si un homme est tenté de mentir, et qu'il en vienne à une petite pause ou à une question, s'il doit mentir ou non, s'il écoute cette parole intérieure, il ne s'attardera pas longtemps, car une sentence s'élèvera en lui, comme elle s'éleva en Joseph, disant « Comment pourrais-je commettre cette grande méchanceté et pécher contre Dieu? Comment pourrais-je dire un mensonge, mentir, alors qu'en le faisant je pèche contre Dieu? Voici une sentence de vérité, la recevrez-vous ou non? Non, dites-vous, je vais risquer de mentir. Alors vous entrerez dans le rang de ceux qui outragent l'Esprit de grâce, foulant aux pieds le Fils de Dieu et tiennent pour une chose profane le sang de l'Alliance. Quelle sentence ceux-là recevront à la fin? Vous pouvez la lire en détail dans les Saintes Écritures. Il y a maintenant une grande nécessité que chacun soit persuadé d'écouter cette voix, non seulement lors d'une assemblée, mais en toutes occasions dans le monde. J'espère m'adresser à beaucoup de personnes sérieuses et religieuses qui s'inquiètent de leur âme immortelle, se demandant ce qui peut être le mieux pour leur âme, s'il vaut mieux continuer dans la méchanceté ou s'arrêter, et qui résolvent et disent « Je serais heureux d'abandonner mes péchés comme vous, si j'en avais le pouvoir, et de vivre une vie sainte. » Et quant au manque de pouvoir, au fait que vous n'avez pas de pouvoir, cela ne m'étonne pas. Car jusqu'à ce que vous en veniez à exercer la foi, en ce qui a donné de la puissance au peuple de Dieu, en tous âges, je ne m'étonne pas que vous n'ayez pas de pouvoir. Vous dites « Je suis si faible que je suis vaincu avant même de m'en rendre compte, le diable est si subtil et rusé dans ses tentations, que je suis surpris, entraîné dans les tentations, et vaincu par le mal avant même de m'en rendre compte. » Il est comme un lion rugissant, rôdant continuellement, cherchant qu'il pourra dévorer. Mais qui peut-il dévorer? Peut-il dévorer ceux qui écoutent et se soumettent à la parole de Dieu? S'il le pouvait, alors personne ne pourrait lui échapper. Si le diable pouvait arracher de la main de Dieu, alors personne n'irait au ciel, ni n'ira jamais, si lui le diable a du pouvoir. Lorsque le diable trouve quelqu'un entre ses propres mains, par exemple une personne religieuse de telle ou telle religion, qui n'a jamais fait l'expérience de cette puissance de Dieu, mais se fie à ses devoirs et à ses performances, cet homme est entre ses propres mains. Alors le tentateur a du pouvoir sur une telle personne. Il peut le faire tromper son voisin et l'entraîner parfois dans l'ivrognerie et l'impureté et dans les plus grandes abominations. Mais si un homme en vient à exercer la foi et la dépendance envers Dieu et à cesser de se confier en lui-même, et à la fois, il dira « Je vois que je ne peux pas me préserver du péché. Je vois la nécessité de mettre ma confiance dans le Seigneur » et d'attendre la puissance de Dieu pour me garder. Si le tentateur vient un tel homme, il ne peut pas l'emporter. Tous les démons de l'enfer ne peuvent le faire bouger d'un iota. Le diable peut le tenter, mais il demeure dans la puissance de la foi. Il connaît son nom et dit « Arrière de moi, Satan ». Lorsque le diable vient devant lui et place une tentation devant lui, il la rejette derrière lui. Si le diable se lève contre lui, il peut l'enchaîner, il peut dire au nom du Seigneur « Arrière de moi, Satan ». C'est la raison pour laquelle beaucoup sont tentés et ne sont pas pris, et pourquoi beaucoup sont tentés de pécher et ne sont pas vaincus? Comment il se fait que nous ne faisons pas tout ce que nous sommes tentés de faire? Il y a quelque chose qui nous retient. Le diable n'est pas si mauvais à tenter, mais nous sommes tout aussi mauvais, dans nos propres inclinations, à céder. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui peut le connaître? Il y a en lui plus de méchanceté qu'on ne peut l'exprimer. Si des gens sont tentés et ne sont pas vaincus, quelque chose doit les préserver. Si quelque chose préserve un homme de quelque mal, cela peut le préserver de tout mal. La raison pour laquelle certaines personnes sont parfois conduites dans la tentation et y résistent, c'est que parfois la tentation ne correspond pas à leur inclination, parfois la réputation fait obstacle, parfois une chose, parfois une autre. Mais quand la chose à laquelle elles sont tentées convient à leur profit et à leur plaisir, alors, au diable la crainte de Dieu, et rien ne les empêchera, j'aurai mon plaisir. Mais ceux qui comprennent le gardien d'Israël, et en viennent à connaître sa puissance demeurant dans leur cœur, ceux-ci présentent toujours devant lui leurs actes et leurs dispositions, et viennent à lui pour un verdict et un jugement, et demandent, cela tend-il à l'honneur ou au déshonneur de Dieu? Est-ce bon ou mauvais? L'oracle de Dieu dans votre cœur dit, ne le fais pas, c'est mal, tu allumeras contre toi l'indignation du Seigneur, que te servira-t-il de gagner le monde entier et de perdre ton âme, ou que donneras-tu en échange de ton âme? Si quelqu'un a porté de main qui peut nous conseiller tous en tout temps, c'est lui que nous devons élever, notre labeur et notre œuvre sur la scène de ce monde, parmi les fils et les filles des hommes, est d'exalter la vertu et la grande autorité du puissant conseiller Jésus-Christ. Nous disons et affirmons au nom de Dieu que la même lumière par laquelle Dieu nous a fait sortir des ténèbres pour nous amener dans sa merveilleuse lumière et de la puissance du diable dans le royaume de son Fils bien-aimé, la même puissance s'étend à vous. Une secte dira, « Mes doctrines sont ainsi et ainsi, et nos ordonnances sont ainsi et ainsi, viendras-tu parmi nous, tu seras membre de notre Église. » Notre devoir est de venir à la grâce de Dieu qui brille dans nos cœurs. Maintenant nous sommes témoins pour Dieu qu'il ne désire pas la mort de ceux qui meurent, mais plutôt qu'ils se convertissent et vivent, car sa parole est sortie, et sa lumière brille, et sa gloire s'est levée sur les nations, afin que ceux qui habitent la terre le craignent. Craignez Dieu, et rendez gloire à son nom, car l'heure de son jugement est venue. Savez-vous que cela est vrai? Afin que vous ne soyez pas séduits, vous saurez certainement que l'heure du jugement de Dieu est venue. Ainsi, lorsque quelqu'un se laisse entraîner par le malin, lorsqu'il ressent ensuite un remords dans son propre cœur, il trouve un jugement secret et un tribunal dressé dans son sein, contre la débauche, le mensonge, l'ivrognerie, la fraude et d'autres péchés. Il sait qu'il a mal agi. Il ne peut aller vers un confesseur qui ôtera et retirera la culpabilité de sa conscience. Il a offensé la majesté du grand Dieu, et Dieu le lui a signifié. Le jugement n'est-il pas venu, et Dieu ne l'a-t-il pas établi dans son propre cœur? Si par l'habitude du péché, vous perdez le sens de son jugement, ce n'est pas parce que Dieu a décidé de vous accabler, mais parce que vous avez agi contre vous-même et en êtes venu à ne plus rien sentir. Vous aviez autrefois le sentiment de ces choses et vous n'étiez pas insensible. Si à un moment quelconque, vous avez menti à vos parents, vous aviez du remords, mais maintenant vous pouvez mentir et ne rien ressentir, vous êtes insensible, à qui la faute? Le Seigneur vous aurait amené à aimer la vérité, mais vous avez choisi le mensonge. Si vous périssez, votre sang sera sur votre propre tête, le Seigneur en est quitte. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu ont la vie. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous êtes conscients que Dieu vous adresse cette parole. Je vous exhorte tous, dans l'amour de Dieu, à priser cette manière de parler et à la considérer comme la plus grande miséricorde dont vous ayez jamais joui. Que Dieu n'ait pas cessé de vous parler, que votre conscience n'ait pas cessé de vous parler et que l'Esprit du Seigneur lutte encore avec vous. Il ne luttera pas toujours. Vous pourriez être, avant de mourir, de cette sorte d'insensés qui se moquent du péché, et être comme des arbres deux fois morts, déracinés. Vous qui êtes sensibles à cette voix intérieure, estimez-la plus que toutes vos grâces. La santé et la richesse, et toutes les autres grâces, ne sont pas dignes d'être comparées à cette voix de Dieu qui parle en vous. Ceux qui l'estiment ne se plaindront jamais du manque de puissance. Ils y trouveront la puissance, toute la puissance au ciel et sur la terre est contenue dans cette vérité qui brille pour vous. Ceux qui en viennent à être exercés par cette parole reçoivent la puissance de Dieu, car Dieu la leur donne. Il leur donne la puissance par degré d'être fils de Bélial, fils du diable, la puissance de devenir fils de Dieu à tous ceux qui croient en son nom. Ceux qui reçoivent cette vérité deviennent sensibles à un mensonge ou à une parole vaine. Ils se trouvent devenus tendres, sensibles et réceptifs. Voici un signe que le Dieu de vie les vivifie. Je suis maintenant trop délicat pour mentir à mon voisin. Je ne ferai pas à un autre ce que je ne voudrais pas qu'un autre me fasse. Lorsque vous parviendrez à un état tendre, bien meilleur qu'un état endurci, vous aurez en vous-même la preuve que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heureux ceux que Dieu a amenés à connaître sa parole, entre toutes les nations et tous les peuples de la terre, ils sont un peuple béni. Bien qu'il y ait de multiples bénédictions qui s'étendent indifféremment à tous, le soleil brille et la pluie tombe sur le méchant et sur le bon, sur le juste et sur l'injuste. Pourtant, voici une bénédiction qui seule peut rendre l'âme heureuse, qu'un dialogue entre elle et son Créateur soit ouvert, qu'il y ait un dialogue ouvert pour que le Seigneur entende l'homme crier et que lui reçoive sa parole. Tous ceux que Dieu a fait entrer en alliance avec lui-même par Christ ont été rendus sensibles à ce dialogue et à cette manière dont Dieu parle à son peuple, comme il leur parlait autrefois. Prenez garde que cette voie ne soit pas bouchée, Vous savez par quoi elle a été ouverte et ce qui la rebouchera. Lorsque vous étiez dans une grande détresse et un grand chagrin, vous avez crié au Seigneur et il vous a délivré. Mais si je regarde l'iniquité dans mon cœur, dit David, le Seigneur ne m'entendra pas. Vous avez peut-être crié de nouveau au Seigneur et il ne vous a pas répondu, et le Seigneur a crié vers vous et vous ne lui avez pas répondu, mais vous avez écouté vos convoitises. Pourtant, le Seigneur, par sa longanimité et sa patience, a gagné un reste et les a amenés à croire et à se confier en sa puissance, afin d'écarter ce qui faisait obstacle à la relation entre Dieu et leur âme. Quel grand remue-ménage il y eut à ôter du chemin l'orgueil, la corruption, l'inimitié, le relâchement, la débauche, et bien d'autres choses mauvaises qui faisaient de l'âme un désert. Que de coups et de brûlures, la parole de Dieu, comme un marteau et comme un feu, brisait et consumait ces choses, et la même parole de Dieu, comme une épée, abattait ces péchés et ces convoitises qui auparavant dominaient sur vous. Par ce moyen, Dieu vous a ouvert un chemin pour avoir accès à lui, et pour que sa parole ait accès à vous. Quand vous venez au Seigneur de cette manière, vous savez que vous vivez par cette parole, et si vous entendez la parole du Seigneur vous être adressée immédiatement, votre joie et votre consolation augmentent, et vous avez une douce communion et une douce communion fraternelle avec Dieu et Christ, et les uns avec les autres par cette alliance de vie. Comment y êtes-vous entrés? En ôtant une grande quantité de décombres du chemin. Si vous laissiez ces décombres repousser, eux qui vous ont privé de la joie du Saint-Esprit, cela ne le ferait-il pas de nouveau? Si votre orgueil, votre corruption, votre inimitié, vos préjugés, votre relâchement et votre débauche, si l'on laisse tout cela pousser de nouveau en l'un de vous, ils feront comme auparavant, ils vous sépareront du Seigneur et les uns des autres. De même que la vérité vous a amenés à Dieu et à cette communion céleste avec lui, de même, si un esprit de colère et un esprit de débauche se relèvent, ils vous sépareront de Dieu et vous disperseront les uns loin des autres, alors vous vivrez dans la vie extérieure, vous mourrez à la vie intérieure et vous périrez. Souvenez-vous qu'on vous l'a dit. Astérisque de la parole du Seigneur au-dedans, quand la lumière te montre quelque chose à faire, tout acte de désobéissance doit être emporté par un acte d'obéissance. Tout ce que tu as surmonté et dans quoi tu retombes est bien plus difficile à surmonter la deuxième fois. Quiconque s'éloigne de cette parole vivante et laisse se relever quoi que ce soit de l'ancienne nature, dans la mesure où cela se relève, dans cette mesure votre voie de relation avec Dieu sera obstruée. Parfois des hommes crient à Dieu mais ils ont un obstacle sur leur chemin. Et ils viennent chercher du réconfort au trône de la grâce, mais ils ne peuvent recevoir ces dispensations de joie et de paix qu'ils désirent. Leurs cœurs insensés sont obscurcis et leurs esprits aveuglés, et ils continuent dans les ténèbres, et sont laissés en dehors de la paix. Vous que Dieu a engagé à être à lui, par l'opération de sa puissance, ô vivez dans une crainte sainte et dans la vigilance, et sachez ceci, quelle que soit votre intelligence et vos dons, vous n'avez rien que ce qui vous est donné, et ce que Dieu vous a donné, il peut vous l'enlever. Tu t'es paré de mon lin et de ma laine, et de mon argent et de mon or, et d'autres ornements, et tu as suivi tes amants. C'est pourquoi je te les ôterai, et je te dépouillerai de tout ce dont tu te glorifies. Ceux qui oublient Dieu, de qui ils tenaient ces choses, qui oublient leur brisement de cœur et la soumission de leur esprit à Dieu, s'ils oublient cela, qu'ils sachent que, quelle que soit leur capacité, ils se flétriront certainement, et leur vie intérieure faillira. Vous qui avez égard à votre propre âme, et désirez ardemment, en ce moment, être vivifié, et trouvez que le Seigneur a ôté votre engourdissement, et vous a vivifié et relevé un tel degré et une telle mesure de vie que vous pouvez dire, « Je trouve la communion avec Dieu, et la communion avec mes amis et mes frères dans cette unique vie éternelle. Astérisque, je prie Dieu que vous y demeuriez longtemps, et que vous reposiez votre tête dans cette vie bénie et céleste. Maintenant, afin que vous le fassiez, tenez-vous bas et humble, dans la crainte de Dieu, gardez vos oreilles toujours ouvertes à sa parole, et vivez comme il convient à ceux qui sont nés de nouveau et engendrés de Dieu, et qui sont amenés à participer à la vie divine. Que les tentations vous entourent, cette vie vous préservera. Celui qui n'a jamais péché est avec vous pour vous garder du péché, et celui qui n'a jamais trompé personne vous gardera d'être trompé. À son conseil et à sa conduite, et à son soin divin et à sa protection, je vous confie maintenant. Astérisque, les premiers Quakers se réunissaient pour attendre le Seigneur dans un silence humble, et dans ce silence charnel, ceux qui étaient assez mûrs dans l'esprit adoraient Dieu, l'esprit conduisant leurs paroles silencieuses et leurs louanges. Les seules paroles audibles prononcées étaient celles ordonnées par le Seigneur. Le seul chant audible était ordonné par le Seigneur. La seule interaction des membres ne se faisait pas par des paroles charnelles et audibles, mais dans l'esprit, où les membres apprenaient à se connaître sans paroles, au contraire, par une communication silencieuse non exprimée dans l'esprit. Ces réunions étaient souvent accompagnées de la présence visible du Seigneur, vue et entendue avec les yeux et les oreilles du cœur, qui les servait tous, et cette présence laissait les membres grandement rafraîchis. George Fox a parlé plus loin de la véritable communion fraternelle dans l'extrait ci-dessous de la lettre 149, une communion dans l'esprit et la lumière que Jean a aussi mentionné. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous, et notre communion est réellement avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. De la parole du Seigneur au-dedans, marcher dans la lumière, c'est être guidé par Dieu à travers la vie, marcher dans les ténèbres, c'est prendre soi-même ses décisions quant à ce qu'il faut faire et dire. Tous les amis partout, réunissez-vous, et dans la mesure de l'Esprit de Dieu, attendez afin qu'avec lui tous vos esprits soient élevés vers Dieu, pour recevoir la sagesse de Dieu. Afin que vous en veniez tous à savoir comment vous pouvez marcher vers lui dans sa sagesse, afin que cela soit justifié par vous, et que vous y soyez préservés jusqu'à Dieu, et qu'il soit glorifié. Et amis, réunissez-vous, et connaissez-vous les uns les autres dans ce qui est éternel, ce qui était avant que le monde fût. Car se connaître les uns les autres seulement dans la lettre et la chair vous distingue peu des bêtes des champs, car ce qu'elles savent, elles le savent naturellement. Mais se connaître tous les uns les autres dans la lumière qui était avant que le monde fût, cela vous distingue des bêtes des champs et du savoir du monde, et vous amène à vous connaître les uns les autres dans la semence élue qui était avant que le monde fût. Dans une lettre à des croyants nouvellement convaincus, Francis Raugill nous donne une compréhension un peu plus grande de la communion dans l'esprit par rapport à la communion dans la chair. Et attendez pour discerner, afin d'avoir du sel en vous-même, pour vous connaître et vous goûter les uns les autres dans l'esprit, et dans son opération et son action, afin qu'étant sensible et ressentant les états les uns des autres dans l'esprit, vous puissiez parler pour informer les uns les autres, pour vous édifier les uns les autres, dans la foi précieuse. Mais soyez lents à parler et prompts à écouter, et ne nourrissez pas la sagesse sensuelle des uns et des autres, qui est le siège du serpent. Car des paroles sans connaissance obscurcissent le conseil et trahissent la simplicité. Certaines personnes veulent une compagnie humaine. Peu ne cherchent que Dieu, chérissant ses paroles, ses enseignements, son amour, ses convictions et ses encouragements, si maigre que soit le pain du ciel en comparaison de la télévision sans bornes de Babylone, des livres, de la radio, de la musique et des réunions. Jusqu'à ce qu'on vous dise spécifiquement de vous réunir avec d'autres, restez à l'écart. Sermon suite, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.